À voix nue. Cette semaine, Jean-Marc Crantor rencontre Jack Lang. Ce soir, de la culture à la politique.
Bonsoir Jack Lang.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons pu constater à quel point vous vous êtes imposé comme un homme qui compterait dans le domaine culturel. Mais comment pouviez-vous changer, modifier le cours des choses? Seul un engagement politique pourrait vous permettre d'avoir une réelle influence. Dès 1972, vous rédigez une note qui donne le ton. J'en lis un extrait. Ai-je réellement envie de me battre aujourd'hui pour certaines idées de réforme qui, pourtant, me tiennent depuis longtemps à cœur, telles que celle-ci? Ne plus emprisonner la culture dans les maisons dites de culture, mais la faire jaillir en des lieux ouverts et innombrables. Ne plus confier la gestion du budget des affaires culturelles à la seule administration, mais en attribuer principalement la responsabilité au créateur. Ne plus admettre que le jeu du corps et de l'imagination ne fasse partie des principales activités scolaires, mais faire que l'école soit un cadre architectural et pédagogique permanent de fêtes de joie et d'invention. Sont-ce les éléments de langage d'un futur ministre de la Culture?
À quelle occasion j'ai dit ça, je ne sais pas. Très bien.
Vous avez rédigé une note quand vous étiez membre, j'ai oublié de le dire, membre du Conseil du Développement Culturel.
Ah oui, c'était une expérience passionnante. C'était sous Georges Pompidou, gouvernement de Chaban-Delmas, Premier ministre, et Jacques Duhamel, ministre de la Culture. Ils ont créé à ce moment-là un Conseil national du développement culturel, composé de personnalités d'envergure, certaines, j'allais dire, mal-pensantes pour l'époque, qui avaient leur franc-parler en tout cas, présidé par Pierre Emmanuel, et supposé chargé de concevoir ce que pourrait être une politique des arts nouvelle. C'était, pour un tel gouvernement, assez neuf et assez audacieux. Et je me suis retrouvé membre de ce conseil. Et je me souviens que nous avions été reçus, c'est la première fois où je mettais les pieds à l'Élysée. Georges Pompidou avait invité à déjeuner les membres de ce conseil. Alors, discussion très large, très ouverte. Je trouvais quand même que mes collègues étaient un peu trop, à mon goût, respectueux de l'autorité supérieure. Et je me suis permis de dire deux, trois choses sur l'état de la télévision et de la radio. Puis à la sortie, Georges Pompidou m'a dit « J'espère que vous n'allez pas jouer Brecht tous les jours. » À l'époque, Brecht était considéré comme l'auteur par excellence typique des directeurs de théâtre de gauche et supposé être ennuyeux et la seule parole que j'ai échangée avec lui. Plutôt, il m'a dit cela. J'espère que vous ne mettrez pas Brecht à l'affiche tous les jours. Mais c'était dit gentiment. C'était pas du tout une admonestation ni une réprimande. D'ailleurs, je n'avais encore rien programmé, je crois. J'étais tout neuf directeur du théâtre de Chaillot. D'ailleurs, puisqu'on parle de Georges Pompidou, Jacques Duhamel me reçoit. Il était déjà assez malade. Il me reçoit à déjeuner chez lui. Peut-être c'était en 73... 74, je ne sais plus. Il me reçoit très gentiment chez lui à déjeuner et il me raconte cette histoire. Lorsque je suis allé à l'Élysée proposer à Georges Pompidou la nomination de Patrice Chéreau et de Roger Planchon au TNP, nouvellement transféré à Villeurbanne, et votre nomination au Théâtre national de Chaillot, il m'a demandé quelles étaient vos opinions politiques. Et je lui ai répondu: je crois qu'il est vaguement radical. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si mes idées politiques étaient connues, je n'en sais rien. Si, j'étais affirmé clairement à gauche à travers le Festival de Nancy, mais je n'étais pas adhérent à un parti politique. Donc, il me dit, j'ai commis un petit mensonge en lui indiquant que vous étiez au fond un homme sage, raisonnable, radical.
Votre expérience au Conseil du développement culturel montre à quel point vous vous engagiez, vous orientez déjà dans cette démarche. Vous parliez déjà comme un ministre. Avez-vous toujours eu envie de faire de la politique ?
Faire de la politique au sens de l'acteur politique assumant une fonction, non. En revanche, ma conscience politique est née très jeune. Je crois quand j'avais 14 ou 15 ans au lycée. C'était la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, les luttes pour l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. J'étais révolté par les humiliations que l'on infligeait à des peuples, par les atteintes aux droits de l'homme en permanence perpétrées par le gouvernement ou l'armée ou les responsables officiels. Voilà, ça me choquait. Et au fond, je suis attaché, je vous l'ai dit, à ma liberté. Je respecte encore plus peut-être la liberté des autres, la liberté des peuples, la liberté des citoyens, la liberté de chacun. Et la liberté et la dignité, je dirais, au fond. Finalement, le maître mot, c'est la dignité. S'il y a quelque chose qui me met en mouvement, c'est quand on veut porter atteinte à la dignité physique, intellectuelle, matérielle, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Finalement, je l'ai d'ailleurs écrit, je placerai en tête des droits de l'homme le droit à la dignité, parce qu'il résume tous les autres droits. Voilà, c'est la raison de mon engagement, je crois. L'engagement, à l'époque, je n'étais pas membre d'un parti, je participais à des manifestations, à des événements à Nancy. Puis petit à petit, bon, je me suis intéressé à la politique nationale. Deux personnages m'inspiraient une certaine attraction, une certaine sympathie. C'était d'un côté Pierre Mendès-France, qui avait admirablement mis fin à la guerre d'Indochine, ouvert les perspectives d'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Et Mendès était pour moi, et reste pour moi, l'incarnation de mon idéal politique. La rigueur, la fidélité aux engagements, l'honnêteté intellectuelle, le respect de ce que l'on dit. Voilà, c'est, pour moi, il est l'homme politique dans sa perfection. Et puis, il y avait par ailleurs François Mitterrand, qui avait réussi à transformer progressivement la gauche, lentement, difficilement. C'était une longue marche. Et j'admirais son talent incroyable, son brio, sa finesse, sa culture. Voilà les deux personnages qui m'ont vraiment inspiré. Mais je ne suis entré que j'ai d'abord été mendésiste, et j'ai fait partie de clubs mendésistes à Nancy. J'étais le délégué de Pierre Mendès-France pour une revue qu'il avait créée qui s'appelle les Cahiers de la République.
Et vous discutiez beaucoup de politique avec votre grand-père aussi.
Avec mon grand-père. Je correspondais avec Pierre Mendès-France, d'un homme qui répondait aux lettres. Ce n'est pas si fréquent dans l'univers politique ou administratif. Et puis j'ai fait sa connaissance. Et puis, je l'ai convaincu de venir à Nancy, animer une réunion, et ainsi de suite. Et mon grand-père partageait le même sentiment, ou nous partagions ensemble le même sentiment, nous étions mendésistes.
Donc, en 1974, c'est la fin de votre expérience au Théâtre National Populaire de Chaillot. Que faites-vous ? Vous retournez à Nancy ?
Je retourne à Nancy, je reprends pleinement mes fonctions de professeur de droit, que je n'avais d'ailleurs pas complètement abandonnées. Voilà, et donc je redonne au Festival de Nancy un élan nouveau. Et pendant quelques temps, je mène simultanément mon métier de professeur et mon travail à la tête du Festival de Nancy.
Et vous rencontrez François Mitterrand quelques mois plus tard.
Absolument, j'ose l'inviter à venir à Nancy au Festival.
Sans le connaître.
Sans le connaître. Si François Mitterrand, je l'avais rencontré à la fin de mon mandat de directeur du théâtre de Chaillot, au milieu des gravats, dans la grande salle, les amis avaient organisé une sorte de fête d'adieu. C'était Maurice Duverger qui avait fait un assez joli discours sur le thème « Le voyageur de l'impossible ». Et François Mitterrand était venu. Il était revenu un peu comme une sorte de grand témoin. Il n'a pas pris la parole, mais il était présent, fortement présent. Pendant
qui l'avait invité ?
Moi-même.
Et pour quelle raison l'aviez-vous
invité ? Parce que j'avais pour lui beaucoup de respect, d'admiration, et parce que, en même temps, finalement, la prophétie d'Antoine Vitez et d'Arabal commençait à se réaliser.
Vous y croyez ?
Je commençais à peine à y croire.
Donc il vient vous voir à Nancy.
Alors ensuite, je l'invite à venir à Nancy, le printemps suivant, en 75, je pense.
Oui, en 75.
Et c'était un homme, François Mitterrand, qui à la fois était de culture classique, mais en même temps très attiré par les marges, l'inconnu. Et à Nancy, tout à coup, il a découvert un théâtre qu'il ne connaissait pas, ou qu'il connaissait peu. C'était quand même des théâtres d'avant-garde, très engagés politiquement, des formes parfois étranges. Et donc, il a été immédiatement passionné. Nous sommes allés de lieu en lieu, et on a passé ensemble une journée. Il a été intrigué, il a été touché, et puis il est reparti.
Et il est revenu en 1977.
Et en 1977, il est revenu. Et à ce moment-là, je l'avais connu un peu mieux dans l'intervalle parce que j'avais réussi à me faire élire conseiller de Paris sur une liste dirigée par son meilleur ami, Georges Dayan. Et cette année-là, à Nancy, nous avions relié le festival à une grande manifestation, une sorte de sommet Europe-Amérique latine. Nous avions convié les artistes latino-américains en exil, Madame Allende, les futurs dirigeants espagnols, et d'autres responsables. Et François Mitterrand s'était exprimé avec force sur le Chili en particulier. Et d'ailleurs, pendant cet événement, nous avions présenté le musée Salvador Allende en exil, d'un musée constitué d'œuvres d'art offertes par des peintres latino-américains. L'idée était que ce musée, provisoirement en exil, serait installé au Chili après la chute de Pinochet. Et un peu plus tard, lorsque je suis devenu ministre de la Culture, j'ai proposé qu'il soit d'abord présenté au Centre Pompidou, dès mon arrivée au ministère de la Culture. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous allez à Santiago du Chili, vous verrez ce musée qui a été installé volontairement dans les anciens locaux de la police politique de Pinochet.
Et à l'époque, ce sont les premières critiques vous concernant, et concernant la gestion du festival, en disant que vous l'utilisez à des fins personnelles.
Il se fait que je dirigeais le festival sans le diriger vraiment, puisque j'avais dû prendre du chant. J'étais pris à Paris déjà, progressivement, par cette campagne au Conseil de Paris. J'étais donc loin, et j'avais nommé ou proposé qu'on nomme un directeur, c'était plutôt une directrice, une femme assez remarquable que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michèle Kokosowski. Elle a commis une petite erreur, elle a parfaitement animé les choses. Simplement, elle a fait appel à des professionnels de la profession qui n'avaient aucune expérience que c'était un festival de théâtre amateur et qui ont voulu appliquer des règles des théâtres professionnels à un festival qui était un festival libre.
Et qui n'en avait pas les moyens.
Qui n'avait pas les moyens. Et ils ont voulu imposer des conventions collectives, je ne sais quoi d'autre, ce qui aurait ruiné complètement ce festival. Voilà, alors il y a eu en effet une cabale, c'est vrai, mais qui m'a montré clairement que lorsqu'on n'est plus capable de diriger effectivement les choses, il vaut mieux s'en détacher totalement.
Donc vous êtes conseiller municipal à Paris. Oui. Pourquoi ce choix ? Pourquoi Paris ? Et pourquoi pas Nancy, tout simplement ?
D'abord, je ne souhaitais pas solliciter un mandat électif à Nancy, pour ne pas mélanger les choses. J'étais universitaire, doyen de la faculté de droit, pendant un temps, créateur d'un festival mondial de théâtre. C'eût été, à mes yeux, abusé des fonctions que j'avais exercées en me présentant devant les électeurs à Nancy. Mais en même temps, progressivement, je devenais parisien. Théâtre de Chaillot, puis d'autres activités. Et j'avais fini par devenir un peu parisien. Et la circonstance a fait que on m'a demandé d'être candidat dans le 3e arrondissement, où je disposais d'un pied-à-terre, et j'ai accepté.
Quand vous dites « on », c'est François Mitterrand.
En l'occurrence, celui qui me l'a proposé s'appelle Jérôme Clément, qui plus tard deviendra patron du Centre du cinéma, puis d'Arte. Patron de Arte. Mais Jérôme Clément, à ce moment-là, exerçait des fonctions à la tête de la Fédération de Paris du Parti Socialiste. Et vous voyez comme les circonstances sont parfois favorables, pas toujours. Je le rencontre, je le croise à l'inauguration du Centre Pompidou, donc c'était en 1974, je pense, à l'automne 1974, et il me parle de sa vie, je lui parle de la mienne, et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de faire partie d'une liste aux élections municipales à Paris ? Je lui dis, pourquoi pas, mais si cette liste se trouve dans l'arrondissement où j'habite, dans le 3e arrondissement. Ah, mais ça tombe très bien, nous cherchons un candidat de gauche indépendant, qui n'appartient ni au Parti Socialiste, ni au Parti Communiste, qui nous permettent de faire la jonction, ou de trouver un compromis. Voilà. Et la chance, c'était que la liste soit dirigée par Georges Daillon, l'ami intime de François Mitterrand, un homme merveilleux, prodigieusement intelligent, d'une drôlerie infinie. Et on a mené une campagne ardente, active. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai par mes propositions, contribue à sauver le carreau du Temple, que j'ai ultérieurement classé quand je suis devenu ministre de la Culture.
Léal.
Mais là, c'est trop tard. Léal, là, Georges Pompidou a commis cet homme qui a été l'inventeur du centre qui porte son nom, a été en même temps le destructeur d'un haut lieu culturel, Léal de Baltard. Et je fais partie des manifestants qui s'opposaient à la destruction des Halles de Baltard, qui pendant quelques mois ont été le lieu d'une la plus fabuleuse maison de la culture qu'on puisse imaginer. On y a vu des spectacles étonnants, notamment de Ronconi, on y a des libraires s'y installaient, des troupes y répétaient, c'était fabuleux. Et voilà. Je pense que des films ont été réalisés ou des écrits sur ce qu'a été la vie des Halles de Baltard pendant un an avant la destruction, qui à mes yeux a constitué un crime contre l'histoire et contre la beauté.
Et vous adhérez au Parti Socialiste en 1977.
Mais c'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai été élu sur une liste parrainée par le Parti Socialiste et dirigée par une personnalité socialiste, Georges Daillon.
Vous êtes élu en tant que personnalité indépendante.
Certes, c'est vrai. Mais en même temps, je n'ai pas été élu pour mes beaux yeux. J'ai été élu parce que c'était la gauche. Serge a apporté ma contribution à la campagne, je l'évoquais à l'instant, en sauvant le carreau du Temple. Mais bon, il est apparu normal que j'adhère au parti qui m'avait contribué à me faire élire. Et puis à ce moment-là, disons que l'envie d'entrer plus directement en politique s'est emparée de moi.
Quelles sont les fonctions que vous occupez en arrivant au Parti Socialiste ?
Aucune immédiatement. Je suis
conseiller. Le conseiller de François Mitterrand, non ?
Donc d'abord, je suis conseiller de Paris, j'essaye d'exercer cette fonction avec mon propre tempérament, et en particulier, j'essaye d'éviter certaines catastrophes, de nouvelles catastrophes aux Halles. Et les projets du maire de Paris, de M. Chirac, me paraissent malheureux. D'autres qui ont suivi ne sont guère plus heureux. L'histoire des Halles en soi est une catastrophe d'un début à la fin. La destruction des Halles de Baltard, les projets de Chirac, les projets de la municipalité de gauche aujourd'hui, c'est vraiment des milliards et des milliards engloutis. Franchement, la beauté n'y retrouve pas son compte. Enfin, c'est un autre sujet peut-être. Donc je suis appelé à collaborer plus activement au Parti Socialiste, lorsque, après les élections législatives de 1978, François Mitterrand se trouve en difficulté. Il ne les gagne pas. Michel Rocard se dresse contre lui. Et François Mitterrand souhaite s'entourer de personnes plus jeunes qui viennent enrichir les équipes déjà existantes, qui sont brillantes, Jacques Attali, Laurent Fabius et quelques autres. Et il me demande de venir le rejoindre. Et je lui propose d'être le directeur de la campagne de la première élection au suffrage universel européenne.
Il accepte ?
Il accepte, il souhaite vraiment que je vienne travailler auprès de lui. Il m'avait proposé de devenir son conseiller pour la presse et la nation publique. Et Georges d'ailleurs m'a dit très intelligemment, surtout n'acceptez pas. Il n'y a rien de pire, vous serez accusé. Bon.
Et vous perdez toute liberté.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, l'essentiel est que Mitterrand, François Mitterrand, le Parti Socialiste, perde de peu les élections législatives. Michel Rocard se dresse contre lui dans une émission de radio dénonçant l'archaïsme du vieux Parti Socialiste, lui incarnant la modernité. Et du coup, François Mitterrand souhaite, pour préserver son pouvoir à la tête du Parti Socialiste, s'entourer d'une équipe renouvelée. Et déjà, il est entouré de Laurent Fabius et de Jacques Attali, qui apportent du sang neuf, et il me demande de lui apporter un coup de main, et je lui propose d'être directeur de la campagne pour la première élection au suffrage universel du Parlement européen. Et il me demande d'être en même temps son conseiller culturel et scientifique. Beaucoup de travail, mais passionnant. Et en effet, oui, je me sens libre, parce que je l'aime profondément, je le respecte, je partage totalement ses idées, sa conception. Il me donne carte blanche pour imaginer une campagne européenne originale, non pas d'un jour à la veille du scrutin, mais toute l'année. Et j'organise avec son accord, ville par ville, des événements qui associent des personnalités européennes sur toute une série de sujets, les inégalités sociales, l'eau, le cinéma, le livre, la fiscalité, jusqu'à un événement qui est peu imaginable aujourd'hui, en mois de mai, quelques semaines avant les élections. Je fais venir à Paris des jeunes socialistes de toute l'Europe, et sous le nom de le printemps socialiste européen, nous convions 100 000 personnes autour d'un plateau en haut du Jardin de Trocadéro. Nous faisons venir les grands leaders de l'époque, Willy Brandt, Milena Mercouri, le London Symphonic Orchestra, imaginez, un parti socialiste qui invite l'un des plus grands orchestres symphoniques du monde. Et voilà, et ça a été un événement assez extraordinaire. Et là, j'ai utilisé une ruse pour pouvoir obtenir l'autorisation. J'ai profité, de l'animosité qui opposait Jacques Chirac, maire de Paris, et Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Le statut juridique de cet endroit est hybride. Les jardins, c'est la ville de Paris, et le haut, le parvis, c'est l'État. J'en sais quelque chose pour avoir dirigé le théâtre de Chaillot. Et plus tard, d'ailleurs, j'organiserai beaucoup d'événements au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et je fais croire à chacun que l'autre a accepté. Je dis à Chirac que le président Giscard d'Estaing est d'accord, et je fais dire au ministre de la Culture, M. Lecas, le maire de Paris a accepté, finalement. Leur ennemi commun, plutôt leur ennemi, c'était eux, c'était pas nous. Ils étaient prêts à tout donner au Parti Socialiste. Et ils m'ont donné ce lieu emblématique. Je ne suis pas sûr qu'on l'obtiendrait aujourd'hui pour un parti politique.
En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de fascination, d'admiration mutuelle entre vous et François Mitterrand. Vous dites « je l'aimais beaucoup ».
Oui.
On sent chez vous une admiration pour cet homme. Et vu les fonctions qu'il vous confie, on imagine qu'il vous admirait autant.
Oui. Admirer, je ne sais pas si on peut dire admirer, mais j'avais en effet pour lui, je continue à ressentir les mêmes émotions. J'avais pour lui admiration, respect, considération. Oui, je l'aimais beaucoup, c'est vrai. Alors, lui-même, je pense, avait une vraie sympathie. Et à mesure que le temps avançait, il constatait mon engagement profond dans les milieux de la science et de la culture, ma capacité aussi à agir, à construire des événements inédits, inhabituels. Je me souviens d'ailleurs que la veille de l'événement Trocadéro dans les jardins, on était en voiture avec Gaston Lefer. Et François Mitterrand dit à Gaston, « Dis-moi Gaston, est-ce que vous accepteriez que le RPR organise un tel événement sur la Canebière ?» Et Gaston a répondu évidemment « Non ». Mais vous voyez, Jacques Lang a obtenu du maire de Paris et du président de la République française qu'il puisse organiser un événement en plein cœur de Paris.
Comment êtes-vous accueilli par les autres membres du Parti Socialiste?
Mais je pense que c'était, comme toujours, c'est normal, c'est humain. Il y avait une part d'étonnement. Comment pouvait-on confier une de telle responsabilité à un personnage qui n'avait pas emprunté les mêmes itinéraires? Mais enfin, assez rapidement, une sympathie s'est créée, je crois vraiment. Et puis en plus, j'ai essayé d'y contribuer moi-même. Il n'y avait pas de raison que ma présence soit source de conflit, mais qu'elle permette de mobiliser, de coaliser les énergies positives.
Là encore, comme à Chaillot, on retrouve une forme, entre guillemets, d'illégitimité qu'on pourrait vous reprocher.
On peut dire ça, oui. Mais d'ailleurs, si je reviens un peu en arrière, puisque vous m'interrogez, c'était la même chose lorsque je préparais l'agrégation de droit. N'étais-je pas un peu illégitime parce que, par ailleurs, réputé homme de théâtre, mon allure n'était pas celle d'un prof de droit classique. Il m'a fallu, pendant les années qui précédaient l'agrégation, faire la preuve que j'étais capable d'être un vrai prof de droit. Donc du coup, j'ai écrit des articles et des livres super sérieux, super difficile, super technique, sur des sujets qui vous paraîtraient invraisemblables, comme les exceptions préliminaires devant la Cour permanente de justice internationale, ou bien encore la délimitation du plateau continental de la mer du Nord. En plus, ces sujets me passionnent. Donc j'avais aucun mal à donner le sentiment d'être par avance un vrai prof de droit sérieux et compétent. Mais il me fallait effacer quand même une image ou faire s'évanouir un peu l'image de l'homme de théâtre que j'étais.
Merci Jacques Lang.
Merci, merci.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Marc Crantor avec Jacques Lang. À voix nue, réalisation Marie Placet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.